Vous travaillez dans l'audiovisuel? Alors ce podcast est fait pour vous.
Tu ne sais pas ce que tu veux.
Enfin, je fais un raccord dans le mouvement, espèce d'idiot.
Je suis Jonathan Elalouf et vous écoutez Au Générique, le podcast qui parle de tous les métiers de la création audiovisuelle.
Si la production vous dit non, vous dites le metteur en scène a dit oui.
Un mardi sur deux, je donne la parole à un ou une professionnelle pour vous faire découvrir de manière authentique son parcours, ses anecdotes et son métier.
Il y avait Michou, il était en camionnette, il traçait, enfin, c'était incroyable. On s'est levé à 7h, on a fait les cadeaux en Suisse, on est reparti, on est arrivé à 23h à Levallois, on a fait ça en 48h. Mais derrière, des émotions de folie, aller voir des gens, les voir émus et tout, comme s'ils avaient vu leur idole, Michael Jackson. Et au final, c'est ça aussi, c'est les émotions que tu gardes et les souvenirs.
Ce podcast vous est présenté par Lightyshare, plateforme de location de matériel audiovisuel. Où que vous soyez, retrouvez tous les équipements dont vous avez besoin sur lightyshare.com.
T'as la chance aujourd'hui, avec le téléphone, le côté nomade, de pouvoir choisir ce que tu regardes, alors qu'avant nous on avait que la télé. Et du coup on était très dépendant de ce qui se passait à la télé en fait. Aujourd'hui c'est toi qui vas chercher l'information. Donc ouais. C'est toi qui décides comment tu vas construire un peu ton éveil créatif et ta vision en fait.
Et si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et pensez à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Cela nous aide énormément. Bonne écoute.
Moteur ! Oh putain, moteur !
Salut Stéphane.
Salut, enchanté.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravi de t'avoir avec nous. Après une carrière comme chef de projet événementiel, puis la création d'un restaurant et une carrière dans la gestion d'artistes, enfin dans la musique.
C'est ça.
Tu as lancé ta propre société de production, Motaiba, tout seul, il y a 2 ans. Et celle-ci a très vite grandi puisqu'aujourd'hui, il y a déjà 5 personnes dans l'équipe. On compte plus de 50 clients avec notamment Nike ou Webedia pour qui tu réalises des contenus. Tu me dis si je me trompe, mais pour de nombreux influenceurs comme Michou, Mastou et j'en passe.
Ouais.
Faisant culminer toutes tes productions à plus de 100 millions de vues. C'est franchement pas rien. Déjà, félicitations pour ça. Alors, en découvrant ton parcours, moi, j'étais curieux d'une chose. Au moment de monter Motaiba en 2020, tu n'avais aucune expérience dans l'audiovisuel.
Aucune, non. Non, j'en avais en fait. Parce que j'observe énormément et en fait ma première expérience dans l'audiovisuel, c'est quand j'étais chef de projet, c'était en 2010. Du coup, j'étais dans une agence d'événementiel, on faisait énormément de street marketing. C'était vraiment l'âge d'or du street marketing où distribution de fly, flocage des voitures et tout. Et on avait un client à l'époque, BlackBerry. Donc les téléphones et
tout. C'était il y a un moment alors.
Il y a très très longtemps, ils cherchaient des contenus innovants et avec mes collègues, on leur a présenté un projet de web-série sur YouTube. Donc il y a déjà 12 ans, donc c'était un peu novateur et c'est là où vraiment, moi j'étais cinéphile à l'époque parce que aujourd'hui j'ai plus le temps, mais on leur a proposé une série sur 7 épisodes où on parlait de l'utilisation des BBM, donc c'était le WhatsApp à l'époque et tout, avec des acteurs et tout, et le fait de toucher à ce monde du cinéma, de découvrir des nouveaux métiers et tout, ça m'a vraiment fait kiffer, faut le dire. Et après, j'ai continué à travailler avec des artistes et c'est vraiment une passion. Mon petit frère qui a 4 ans de moins que moi, lui est devenu réalisateur au Vietnam. C'est celui qui marche le mieux au Vietnam. Et moi, j'ai toujours eu cette passion et cette passion, un jour, elle s'est transformée en métier, en fait, tout naturellement en 2020, en fait.
Okay.
C'était vraiment les circonstances, il y a eu le Covid, j'étais dans la musique, je me suis dit bon ça va être compliqué dans la musique, je travaille avec des artistes, je pense que la musique elle va traverser une grosse crise pendant 2-3 ans, le digital allait se développer, j'avais un petit GH5, un peu de matos que j'avais par passion, je me suis dit je me lance et puis en 2 ans ça a explosé quoi, donc c'est parti comme ça,
magnifique.
Au culot.
Alors du coup, quand t'as démarré, toi t'as démarré tout seul,
ouais.
Et t'as créé direct une SASU, donc une société
ouais.
Personnelle.
Ouais, c'est ça.
T'as fait le choix de pas te mettre en tant qu'auto-entrepreneur.
Exactement.
Du coup, c'était vraiment un choix d'être seul au début, parce que bah voilà, t'as commencé, t'avais ton matos, ou c'était l'idée de liberté. C'était quoi l'idée qu'il y avait derrière?
Bah en fait, déjà, j'ai toujours, sauf à mes débuts, travaillé un peu à mon compte, j'ai eu mon restaurant. Où j'étais associé à mon cousin et ma mère. Donc, c'était déjà une expérience
d'association,
en fait. Et parfois, être avec sa famille ou même ses amis, c'est pas si simple que ça, en fait. Et parfois, ça peut être très conflictuel. Donc, c'est tout naturellement que j'ai décidé de monter ça tout seul, sachant que bah, je faisais tout moi-même, le montage, les démarchages clients, la réal. Donc, non, c'était tout à fait naturel de monter ça tout seul quoi.
Ouais, c'est en fait t'étais vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui vidéaste, dans le sens où c'est des mecs qui font un peu tout seul, qui vont aller démarcher, faire tout le contenu de A à Z quoi.
Exactement. Ouais.
Ok, c'est courageux au démarrage et surtout d'arriver aussi vite en 2 ans au stade où tu en es aujourd'hui, c'est super impressionnant. Et alors justement, au début de l'aventure, comment tu as trouvé tes premiers clients?
Alors mes premiers clients, en fait, au début, j'ai fait une sorte de démarchage, j'ai eu une prise de conscience en fait, 2016-2017 par rapport à mes origines surtout. Comme beaucoup d'Asiatiques, en fait, il y a eu un drame par rapport à un monsieur chinois qui s'était fait assassiner. Et notre communauté, en fait, s'est beaucoup rapprochée. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de mouvements autour de cette communauté. On s'est beaucoup rapprochés entre, on va dire, artistes, chefs d'entreprise et tout. Et c'est tout naturellement qu'au début, j'ai proposé mes services à titre gracieux à des personnes de la communauté. Donc, un chef comme Tommy Gousset, qui est le premier chef étoilé cambodgien, je lui ai fait des vidéos gracieusement et ou des artistes pour leur faire des clips ou des choses comme ça. Mais c'était vraiment déjà moi, c'était pour me faire la main aussi, mais c'était aussi une question d'entraide et aussi un peu de réseau aussi. C'était l'esprit communautaire en fait. Donc ça a commencé comme ça. Puis après, c'est aussi les rencontres qu'on fait, l'expérience et les clients que j'avais avant dans d'autres mondes. Donc, pas celui de la vidéo, mais des clients, du coup, dans l'événementiel et tout, qui fait que derrière, ah bah, t'es devenu ça, on se fait un café et tout, et puis voilà, quoi.
Du coup, en fait, au tout démarrage, t'as vraiment commencé à faire des contenus gratuits pour te permettre de créer un portfolio. C'est un peu ça, pour montrer un petit peu ton...
C'est ça.
Ce que tu pouvais faire.
C'est ça, exactement, parce que, bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on demande avant, bah, c'était beaucoup les showreels, les choses comme ça. Aujourd'hui, limite, c'est que Instagram, on va regarder ton Instagram, qu'est-ce que tu fais et puis voilà quoi, sachant que j'étais pas quelqu'un qui était très dans la technique ou quoi que ce soit. Bon, mon but c'était vraiment plus de raconter des histoires. Pour moi le plus important c'était vraiment avoir une banque d'images à moi. Et avant je faisais juste par passion avec mon GH4 mes contenus avec ma femme pendant les vacances quoi. Je filmais mes vacances et tout, on faisait des films comme beaucoup. Mais au début c'était ça et puis après... petit à petit, machin, ah bah tiens, j'ai un client, il cherche ça, ça s'est fait comme ça quoi.
Ok,
ouais.
Je pense que c'est une bonne manière de faire, même si aujourd'hui on peut voir souvent les gens dans les groupes un peu spécialisés audiovisuels, les gens critiquer les offres à bas prix.
Ouais.
Faudrait faire un distinguo entre ce qui va t'apporter à toi et que du coup tu vas proposer peut-être gratuitement une première fois.
Mais ouais, c'était pas proposé gratuitement, mais c'était plus. Pas un service, mais moi, au début, c'était vraiment c'est ma communauté et c'était aussi me rapprocher de personnes qui ont des histoires à peu près similaires, la même éducation. Et c'était plus un échange, en fait. C'était même pas... pour moi, il n'y avait rien de pécunier et c'était vraiment pas pour le but de faire de l'argent, quoi que ce soit. Déjà, c'était connaître d'autres histoires. C'était vraiment se rapprocher de personnes qui ont grandi un peu comme moi. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, je n'ai pas renié mes origines, mais je ne traînais pas avec des personnes des mêmes origines que moi. Et okay. Ça m'a rapproché aussi. C'était aussi par rapport à ma future parentalité, où j'ai dû aller avoir un enfant. Et même au bout de 30 ans, tu te poses des questions sur tes origines, comment tu le vis, tu le partages. Et c'est ce que je ne faisais pas forcément avant, en fait.
Ok. Ouais, c'est un beau démarrage, je trouve. Ouais. C'est une belle façon de démarrer, en tout cas. Et donc, du coup, en étant seul au démarrage, ce que tu me disais tout à l'heure, tu t'occupais de tout. Donc, du coup, tu as appris sur le tas un petit peu toute cette partie, le montage, les différentes techniques de cadrage, etc. Comment ça s'est passé?
Comment un peu je me suis instruit, éduqué par rapport à ça? C'est vrai que j'avais fait des belles rencontres dans le milieu, déjà. Qui m'avait poussé un peu à aller un peu plus loin. Bon, à passer 25 ans et tout, retourner sur le banc d'école, c'était un peu compliqué parce que je détestais ça en plus. Donc forcément, les solutions alternatives, c'était quoi? Bah, y avait YouTube. Et puis, pour moi, il n'y avait rien de mieux. Bon, j'avais mon restaurant, j'ai vendu mon restaurant. Qu'est-ce que j'ai fait en vendant mon restaurant? Je me suis acheté du matériel. Ce n'était pas un investissement à la base pour travailler, mais c'était important pour moi d'avoir mon petit boîtier. Pour l'anecdote, à la base, je m'étais acheté un GH4. Et en fait, à mon mariage, je me suis fait voler mon GH4. Et tout mon matériel, j'avais un 1835 avec le Metabones, un 51-2 et tout.
Le jour de ton mariage.
Le jour de mon mariage, et c'était un pote, voilà. Pour être. Mais aujourd'hui, je le remercie parce que du coup, derrière, bah, j'avais ma lune de miel, j'allais à Hawaï, je me suis dit, mais je peux pas avoir pas de boîtier, ne pas avoir des images. Je me suis dit, bon, j'ai acheté un GH5 et j'ai encore plus poussé la technique. Alors qu'avec mon GH4, c'était vraiment, je filmais et puis voilà quoi. Mais le GH5, ça m'a poussé vraiment à travailler le côté technique.
À découvrir de quoi il était capable.
Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent encore aujourd'hui encore. Et ça m'a permis de me professionnaliser. Comme quoi, en fait, je pense que vraiment, il n'y aurait pas eu cet événement, ça ne m'aurait pas poussé.
Voilà, c'est vraiment un mal pour un bien. Là.
Exactement, ouais. Bah, on restait dans le micro 4 tiers, mais le GH5, au niveau de l'image et tout, je le trouvais beaucoup plus poussé que le GH4. Et ça m'a vraiment donné envie d'aller à fond dans la vidéo, en fait.
Ok. Ouais. Et alors, justement, moi, je pense à ceux qui commencent maintenant ou qui réfléchissent à commencer. Souvent, je pense que beaucoup sont pris par la folie des grandeurs et commencent tout de suite à acheter une caméra dernière génération, 10 optiques, des lights, des micros, un peu tout et n'importe quoi. Toi, quand tu as démarré, du coup, tu avais un GH5, deux objos. C'était quoi un peu le budget quand on lance une boîte de prod comme ça, solo? C'est quoi un peu le budget aujourd'hui, tu penses?
Moi, je pense que si on peut se professionnaliser, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marketing, des lumières, des apertures, les machins. En vrai, même le boîtier, aujourd'hui, avec des Sony, enfin, beaucoup sont sur du Sony. J'ai l'impression que tout le monde est sur Sony aujourd'hui. La 7-3, c'est un best-seller et tout. Il faut juste le kit de base, un bon objectif, un polyvalent, un 24-70, pas forcément le... Parce que tout le monde vend l'autofocus et tout, mais c'est vrai que enfin, moi, j'ai toujours travaillé sur manuel focus, surtout avec Panasonic, qui n'est pas réputé...
Deux écoles différentes.
C'est ça. Ouais. Donc, 24-70, j'avais un 18-35 en 4 tiers, du coup, je crois que c'était un x2, si je ne dis pas à bêtises ou un truc comme ça. J'avais ça, un kit micro, deux lumières. Au début, c'était quoi, des newer ou des même pas, je crois que c'était un truc chinois, et ça suffisait au début. On se fait les bases comme ça, on est les premiers clients, et puis après, je pense que dans cette volonté à chaque fois de s'améliorer... Petit à petit, on upgrade aussi le matériel. Mais en vrai, au début, il n'y a pas forcément besoin. Mais il faut juste les bases, il faut le son.
Oui, souvent, on oublie le son d'ailleurs.
On oublie le son et la lumière. Et puis après, le derrière, ça fait le reste, quoi, je pense.
Rouler jeunesse.
Ouais, c'est ça.
Du coup, toi, t'as justement, par tes autres expériences, tu as remarqué des qualités transversales entre ton expérience dans l'événementiel, dans la restauration et maintenant dans la production. Il y a des choses que tu as pu réutiliser. Ça a pu t'aider de faire ça, vu que tu n'as pas... suivi un parcours classique, on va dire, de quelqu'un qui ferait un BTS audiovisuel ou une école de cinéma, comme il y en a un peu partout maintenant. Est-ce que toi, ça t'a servi ces expériences? Il y a des trucs que tu as pu en tirer?
Bah, je pense qu'en fait, c'est ce qui me sert le plus parce que j'arrive facilement à me mettre à la place du client, donc que ça soit en agence ou de la marque, pour vraiment les avoir côtoyés. Ça fait gagner beaucoup de temps, on comprend vite leurs problématiques, ce qu'ils veulent, on gagne énormément de temps. Le restaurant, ça m'a fait travailler aussi tout le côté management et travailler un peu dans l'urgence, enfin l'événementiel aussi. Mais je suis quelqu'un qui ne stresse jamais. Aussi, on va pas dire que je suis sain, mais bon, je fume pas, je bois pas. C'est cool, quoi. Donc, toutes ces expériences-là, aujourd'hui, ça me sert. Et en fait, là, je trouve vraiment un équilibre sur, on va dire, toute ma carrière. J'ai que 35 ans, mais 17 ans de vie professionnelle, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ils sont tout ce que j'ai appris. Aujourd'hui, je m'en sers et maintenant ça roule de fou. Je pense grâce à toutes ces expériences en fait. Ouais.
Donc comme quoi, voilà, pas forcément obligé de passer par une école, une formation pour essayer de se lancer et faire ses premiers pas dans l'audiovisuel. En tout cas, faut pas partir de.
Non, faut pas partir de zéro. Et puis aussi aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il faut être éveillé. C'est ce que je dis beaucoup aux jeunes avec qui je travaille, c'est faut regarder ce qui se passe autour de soi. On passe beaucoup de temps sur notre portable, autant l'utiliser pour faire des choses, je vais pas dire intéressantes, mais qui peuvent servir. C'est-à-dire que oui, tu peux regarder TikTok, mais regarde-le d'une façon différente. Comment ça a été fait, comment ça a été monté au niveau du rythme ou des choses comme ça. Instagram, c'est pareil, au niveau des cadrages, au niveau de la lumière et tout. En fait, faut se servir de ce temps pour regarder différemment, pas le consommer de manière, on va dire, j'allais dire sauvage, mais
d'un premier plan.
Juste scroller, non, faut le regarder. Tu peux, tu as la chance aujourd'hui avec le téléphone, le côté nomade, de pouvoir choisir ce que tu regardes, alors qu'avant, nous, on n'avait que la télé. Et du coup, on était très... on était dépendant de ce qui se passait à la télé, en fait. Et c'est toute ta culture, c'est comment tu regardes la télé, tu l'analyses. Aujourd'hui, c'est toi qui vas chercher l'information. Donc, ouais. C'est toi qui décides comment tu vas construire un peu ton éveil créatif et ta vision en fait, artistique.
Ouais, ça, il y a une pluralité de médias qui sont disponibles aujourd'hui, qu'il n'y a pas vraiment d'excuse de ne pas aller chercher quelque chose qui va te taper à l'œil et essayer de comprendre comment ça a été construit, quoi.
Exactement. Ouais.
Et alors justement, tu parlais juste avant d'esprit managérial et de ces premières expériences professionnelles qui t'ont amené ça. Aujourd'hui, Motaiba, c'est plusieurs personnes. C'est quoi les profils des gens qui sont dans ton équipe ?
Alors dans mon équipe, moi j'ai une monteuse qui est cadreuse aussi, Anousson, qui est un peu comme moi, qui a appris tout seul. À la base, elle était monteuse dans une grosse boîte. Elle a décidé de partir parce que trop de boulot, pas forcément de reconnaissance au niveau du travail. Elle s'est mise à son compte et c'est vraiment, Motaiba, ça a vraiment aussi poussé grâce à elle. On était très complémentaires, moi plus à la réal et elle est au montage. Elle avait aussi les codes YouTube et tout ça et s'est montée super vite. Il y a elle, là j'ai Camille qui est ma chargée de prod, directrice des opérations, elle qui va gérer tout le côté clientèle, qui permet moi de me concentrer aujourd'hui sur le côté créatif et toujours la prod parce que j'aime travailler avec mes équipes. Derrière, bah, on a un alternant, stagiaire, et puis là, je pense qu'on va recruter un peu plus parce qu'on a énormément de demandes, et c'est très cool. Et aussi, on travaille beaucoup avec des free,
okay.
Mais c'est des free que je fais travailler peut-être 15-20 jours par mois.
Ah ouais, donc faut t'envoyer des CV, donc le site c'est Motaiba.
C'est ça, mais c'est cool, mais parce qu'en fait, on a vraiment... Le but, c'est de pas... je mets pas d'esprit de hiérarchie. En fait, j'ai fait beaucoup de sport collectif dans ma jeunesse et pour moi, on est plus une équipe. C'est-à-dire que chacun fait ses projets de son côté et pour les gros projets, on se met ensemble.
Et on avance ensemble.
Et on avance ensemble et on fait des super expériences. Et c'est plus ça, en fait, l'esprit de la boîte que j'ai envie d'inculquer et d'avoir. C'est que c'est vrai qu'on nous voit, il y en a beaucoup, c'est des jeunes, des profils pas forcément techniques, comme on peut voir avec peut-être des intermittents ou d'autres, des grosses pros. Nous, on est considéré dans notre milieu sur YouTube comme une grosse prod, mais à notre façon. On a l'impression que c'est une bande de potes qui viennent travailler et tout marche bien. Mais parce que c'est l'esprit qu'on veut faire et c'est pour ça que je pense que ça monte vite sur certains domaines. Ouais, on pousse, on grandit vite, quoi.
Et alors justement, du coup, passer de « je m'occupe de tout de A à Z » à « j'ai une équipe derrière moi », enfin « avec moi » même plutôt, ça ressemble à quoi maintenant tes journées ?
Alors mes journées, entre-temps, j'ai eu un enfant.
Ah, donc, déjà,
qui est né peut-être 3-4 mois après la naissance de la boîte.
Wow.
Je voulais faire quelque chose mon père, par exemple, n'a pas passé beaucoup de temps avec moi parce qu'il travaillait énormément. Et c'est quelque chose que je ne voulais pas forcément reproduire. Donc, très vite, j'ai appris à déléguer. Pas comme au restaurant où justement où tu apprends tes erreurs. J'ai fait énormément de choses et j'ai eu du mal à déléguer. Là, tout de suite, je me suis dit, bon, on va déléguer des choses où je ne suis pas forcément le plus compétent, comme le montage, parfois tout ce qui est graphisme et tout ça, parce qu'on fait aussi un peu de ça. Et c'est monté comme ça, en fait. Et c'est tout naturel. Aujourd'hui, mes journées, on va dire, sont plutôt cool. Je suis au bureau à 9h30, 10h. Je rentre pour aller chercher mon fils à 17h quand il n'y a pas de tournage. On fait les appels, tout ça. Quand il faut venir sur Paris, on vient sur Paris parce qu'on est un peu excentré vers Disney. Mais sinon, après, quand il y a des grosses journées de tournage, on y va, quoi. Par exemple, demain, j'ai un gros clip pour Mastu. Donc, c'est un YouTuber. Demain, il avait plusieurs sets. Au lieu de faire sur 3 jours, s'éparpiller sur plusieurs sets, on a réussi à trouver un lieu donc, qui est un peu plus, au niveau du budget, un peu plus. Mais je préfère faire une journée, par exemple, de 12-13 heures qu'une journée de 8 heures à aller là, là. Après, voilà, c'est les conditions, on les pose. Mais tu passes une super journée. Voilà. Et il y en a qui vont dire, ouais, mais ça dépasse un peu les 8 heures, tout ça. Je suis complètement d'accord. Après, moi, je propose. Mais c'est vrai que je préfère passer une journée sur le même endroit que 3 jours par-ci, par-là. On perd beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, il fait 35 degrés.
Ouais, il faut le dire, il fait 35 degrés. On est enfermé dans une salle sans clim.
C'est ça, ouais.
Ça fait 20 minutes. Il fait déjà très chaud.
C'est ça. Et après, voilà, moi, j'ai beaucoup. Enfin, j'ai eu mon restaurant, j'ai travaillé à mon compte. Les heures, je ne les compte pas forcément. Et c'est pas de l'esclavage. Hein. Mais je me dis, il y a des jours qui vont être cool et des jours, il faut carburer un peu plus. On va carburer.
Ouais, bien sûr.
Mais du moment que mes équipes sont OK et le font, et derrière, il y a vraiment un bon état d'esprit qui fait que ça se passe bien, en fait. Donc, on peut peut-être nous reprocher de... Peut-être par rapport, je sais pas, au code du travail ou... Je comprends tout à fait, mais aujourd'hui, c'est vrai que la différence, c'est... ce que nous, on fait, c'est la flexibilité, l'agilité. Et c'est la bonne vibe qu'on ressort, en fait. Mmh. Donc, voilà.
Ah ouais, je comprends. Mais alors, justement... Aujourd'hui, là, tu as commencé à parler un peu d'un premier projet. Aujourd'hui, Motaiba, c'est quoi comme type de projet que tu produis
Alors, on va dire qu'aujourd'hui, il y a deux segments. On est vraiment sur le segment influence et l'autre, c'est le corpo. L'influence, aujourd'hui, on a de la chance. Elle est très, très vite. On travaille avec, on va dire, énormément de gros influenceurs. On va dire peut'être 5 ou 6 du top 10 français.
C'est
du
coup, avec Webedia, tout ça que...
Avec Webedia ou d'autres. Par exemple, on travaille avec Michou, Inox, qui sont chez Webedia. On travaille avec des mecs du Lot, donc Joyka, Mastu, Théodore. C'est vraiment les grosses valeurs montantes qui sont en train d'exploser à chaque fois. C'est minimum 2 millions, 3 millions de vues. Ça a commencé peut-être il y a... On est en juillet 2022. Ça a commencé en novembre 2021. Non, 2020, ouais.
Ah, donc c'est très récent. Ouais.
C'est très récent, très ouais. Récent. C'est très, très récent et on fait des projets de plus en plus fous. J'ai fait un court-métrage avec 150 cascadeurs professionnels au CUC. Donc c'est dans
bah, le... Ouais, voilà. D'où vient Mélissa Hummler?
Exactement,
qui était dans le podcast, ouais. Il y a quelques épisodes.
En fait, j'ai un ami qui est cascadeur professionnel, qui a joué sur John Wick, dans des Netflix et tout. Et en fait, c'était Inoxtag qui voulait faire un court-métrage
d'action.
D'action. On m'a dit, j'ai pas forcément beaucoup de budget. Et moi, dans ma tête, je voulais faire un projet perso. Et je lui ai dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais mettre le budget que j'avais prévu pour mon projet perso dans ce court-métrage. J'ai la chance d'avoir 150 cascadeurs professionnels, allez, 120, on va dire gratuitement, ouais, parce que c'était un échange de visibilité par rapport à Inox et tout. On a fait ça en un jour. de Blackmagic Sika, j'avais toute mon équipe. C'était une expérience incroyable. Incroyable de diriger ces gens-là qui traquent des professionnels et tout. Moi qui suis fan d'arts martiaux, Hong Kong et tout, c'était une expérience insensée. Avec Michou, on a fait le Tour de France et de la Suisse en 2 jours en donnant des cadeaux à énormément de gens. T'as des émotions qui passent par la tête et tout. C'est improbable. Des décors de folie et tout. C'est vraiment YouTube, c'est on va dire que c'est un terrain de jeu en fait.
C'est... Qui va très très vite en plus.
Qui va très très vite. Et je pense que la différence qu'on fait par rapport à d'autres boîtes de prod, c'est qu'on a les codes. C'est-à-dire qu'on est. C'est des domaines qu'on apprécie. Et parfois, je sais que pour avoir parlé aux talents, donc les youtubeurs, ils travaillent des grosses boîtes, mais ils ne se sentent pas forcément à l'aise. Parfois avec les techniciens ou avec l'équipe, parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas réceptifs à ce qu'ils font. Et c'est des gens qui ont besoin de... En vrai. Ils ont besoin de l'accord un peu de leur équipe. C'est-à-dire qu'ils vont faire ça, ils vont demander si c'est bien. Ouais. Ça reste quand même des jeunes. Ils ont entre 20 et 25, nous on a 35. Mais mon équipe, ils sont assez jeunes. Ils vont leur dire, ouais, ça c'est cool, ça c'est moins cool. Alors que quelqu'un qui a peut-être 35-40, il est complètement détaché. Il va peut-être...
En tout cas, qui ne suit pas du tout le YouTube game.
Il va même peut-être pas comprendre le délire. Mmh. Et je pense que c'est important d'être dans cette vibe-là. Et au final, c'est vrai qu'en un an, on s'est imposé très très vite comme... parmi les grosses boîtes du marché, quoi. Et c'est cool, franchement, c'est cool.
Donc aujourd'hui, le gros de ton activité, c'est vraiment l'influence?
Ouais, c'est plus la vitrine, on va dire.
C'est la vitrine?
C'est la vitrine, il faut le dire, l'influence, tu travailles avec Michou, bah, il a fait Danse avec les Stars ou d'autres, ça te ramène aussi des marques. Après, tout le côté corpo, on a des marques assez sympas, mais seulement sur le digital. J'ai fait une en perso, une ou deux pubs télé, mais l'expérience ne va pas forcément plus par rapport à tout le cahier des charges. Les clients qui sont assez quand même on va dire ils veulent énormément de choses, alors que YouTube c'est quand même un peu plus simple, et le digital aussi, on est plus dans une volonté de faire de la quantité que de la qualité, pas forcément au détriment de la qualité, mais il y a une question de volume. Et du coup, moi, c'est là aussi l'aspect de la boîte, c'est aussi l'aspect créa, donc c'est le conseil. On fait pas seulement de la prod, mais du coup aussi beaucoup de conseils. Et du coup, on accompagne des marques comme AXA, donc c'est une banque. On met le côté influence aussi, mais sur des formats qu'ils ne connaissent pas forcément, donc TikTok, Instagram ou YouTube.
Donc l'idée, c'est que tu vas avoir un talent, par exemple, ou une marque qui va venir à toi.
Ouais.
Et toi, tu ne vas pas uniquement être là pour exécuter une idée qu'eux t'amènent, mais tu vas pouvoir leur proposer
des profils, des idées. Voilà, c'est ça. Du coup, on a AXA, on a quoi ? On a Deezer, on a pu faire du Nike, Bershka aussi, un peu dans tous les domaines. Aussi du Mondial Pare-brise, il y a eu 2-3 marques, marques d'automobiles, MG je crois, c'est une marque chinoise, Airways aussi, voilà, on s'éclate et c'est vraiment cool. Ouais.
Et alors justement, comment toi, tu as commencé à trouver ces premiers clients qui aujourd'hui sont ta vitrine? Parce que j'imagine que les webédias et compagnie, tous les influenceurs doivent être très sollicités par des boîtes de prod qui veulent bosser avec eux. Comment tu t'es retrouvé à bosser avec eux, toi?
C'est vraiment...
Si c'est pas un secret de polichinelle.
Non,
quoi.
C'est pas un secret. En fait, c'est les rencontres. C'est plus l'humain qui rentre en compte. C'est un feeling. Moi, j'ai une personne... Bon, elle se reconnaîtra, je dirais pas son nom parce que parfois, il y a des... Mais c'est une personne que c'est un peu comme... C'est une amie, c'est aussi mon agent qui me dit « J'ai un client, il veut faire du YouTube et tout, tu veux le rencontrer ?» On a monté sa chaîne en 6 mois. Elle faisait partie des top 3 des chaînes qui ont le plus monté sur YouTube.
Et du coup, ça te donne la visibilité.
Ça nous donne la visibilité. Derrière, eux, ils signent... je sais pas s'ils ont signé, mais bon, ils ont travaillé avec Webedia. Derrière, on nous repère et ça se fait comme ça. Après, à chaque fois, on refait nos preuves. On refait. Et puis au final, on arrive très, très vite avec Michou, quoi. Mais par exemple, Michou, je sais que là, le moment où on a fait nos preuves, où ça allait très vite, c'est que je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'était le week-end avant Noël. Un jeudi soir, on m'appelle. Ouais, Stéphane, faut faire une vidéo pour Michou pour Noël. Et je lui dis, Noël, on est jeudi, c'est vendredi d'après. Il me fait, ouais, mais du coup, il faudrait partir lundi, mardi, faire le tour de la France, aller en Suisse, acheter les cadeaux, monter la prod et sortir la vidéo pour le dimanche. Et je lui ai dit, vas-y. Et du coup, le jeudi, le vendredi matin, je prends connaissance du projet, le brief et tout. Le samedi, j'avais une prod à faire. Le matin, avant 11h, je suis allé faire les courses de Noël.
Pour ta famille.
Alors, pour ma famille et en même temps, bah, parce qu'on a eu 300 000 candidatures pour. En fait, on offrait des cadeaux à des gens.
Ok.
Donc, du coup, dont des cadeaux, c'est totalement un problème. Une voiture, un kit DJ à 3000 euros. Je suis allé à Woodbrass. Enfin, bref, j'ai parcouru tout Paris pour faire ça. Le dimanche, pareil, j'avais le Noël de ma boîte et tout. À 15h, je suis parti, je suis allé refaire des courses. Le lundi, on est parti à 8h de Levallois. On est arrivé en Suisse à 3h du matin. On a roulé dans les montagnes. À un moment, il neigeait, on voyait rien. Enfin, il y avait Michou, il était en camionnette, il traçait. Enfin, c'était incroyable. On s'est levé à 7h, on a fait les cadeaux en Suisse, on est reparti, on est arrivé à 23h à Levallois. On a fait ça en 48h. Mais derrière, des émotions de folie. On allait voir des gens, tu les vois émus et tout, comme s'ils avaient vu leur idole, Michael Jackson. Et au final, c'est ça aussi, c'est les émotions que tu gardes et les souvenirs. Et je sais qu'avec mon équipe, on est parti à 4, mais c'est quelque chose, ça reste gravé parce qu'on en tient un trop bon souvenir. Et on était là avec Michou et son pote, et tout simplement, c'est vraiment cool, quoi.
J'allais justement te demander s'il y avait un projet en particulier qui avait permis à la boîte de décoller. Du coup, c'est peut-être l'un des deux que tu...
Bah, y a eu celui-là et celui d'Inox, en fait, le court-métrage qu'on a fait en un jour. Pour l'anecdote, on allait faire sur jeudi-vendredi. En fait, on m'appelle pour me dire qu'en fait, vendredi, il devait partir à 15h. Du coup, on était le mercredi, j'ai dit à toute mon équipe, écoutez, tout le monde vient jeudi et midi. On a commencé le tournage, j'avais pas mon chef-op et j'avais pas un cadreur. Mais on l'a commenté quand même parce qu'on avait... tous les plans qu'on voulait rentrer, sachant que Inox apprenait les chorégraphies 20 minutes avant.
Magnifique.
Mais c'est ça YouTube, c'est que derrière, il n'y a pas forcément de script, il y a beaucoup d'impro et c'est vraiment de la réaction. Et cette adrénaline, en fait, je la retrouve comme dans l'événementiel, en fait. Tu ne sais jamais ce qui peut se passer, mais il faut s'adapter. Et au final, tu sais que le montage, ça va beaucoup t'aider et tout. Et en une semaine, on a sorti le truc. C'est-à-dire qu'il est passé au montage, au mixage son, à l'étalo, et le samedi d'après, il était sorti sur YouTube. Je sais que c'est pas parfait, beaucoup vont dire bah, y a des imperfections, mais quand tu sais que tu l'as fait en 24 heures, t'en es très content, quoi. Donc, et ça, ouais, ça, j'étais très content parce que c'était mon projet perso, et au final, on a réussi aussi à élever un peu le niveau pour les YouTubeurs, au niveau en termes de qualité, et maintenant, ils sont plus beaucoup sensibles aussi... à tout ce qui est le son. Donc maintenant, à chaque fois, moi, c'est con, mais j'impose des ingé son. Avant, ils étaient tous en micro cardioïde, le Rode VideoMic Pro qui est très bien, Mais parfois, quand vous êtes 5, bah non.
Ouais, et puis bon, quand on commence à faire des millions de vues, peut-être qu'on peut essayer de faire un son un peu propre pour les gens qui nous regardent.
C'est ça, un multicam posé avec un réalisateur live, avec une régie et tout. Et puis voilà, quoi. Mais ces deux expériences, c'est vraiment ce qui nous a fait péter. Et c'est un peu notre marque de fabrique. Donc l'agilité, les idées, voilà.
Bah, c'est énorme, hein, parce que... Et je comprends bien que... Enfin, si je comprends bien, la question qui se pose à toi aujourd'hui quand tu produis des contenus, c'est qu'il y a vraiment une question de vitesse, en fait. Mm. Surtout sur les projets où, en fait, tu as un des talents qui va avoir une idée sur un truc, qui veut le réaliser tout de suite pour le sortir le plus vite possible.
Ça.
Donc, c'est du run and shot à l'extrême, mais vraiment poussé au maximum, quoi.
C'est un peu la course aussi, parce qu'on se dit, il y a peut-être quelqu'un qui va avoir l'idée. Okay. Donc, c'est aller le plus vite possible et c'est compréhensible parce qu'aujourd'hui, avec Twitter, avec tous les réseaux sociaux, ça bâche très très vite. On va dire, t'as copié le projet de machin, t'as copié le projet de machin et tout. Donc, et ça nous est déjà arrivé d'être accusé de plagiat ou d'autres YouTubeurs d'avoir plagié nos contenus. Donc, en vrai, oui, il y a une sorte de course à la réal. Mais moi, je trouve ça excitant en fait. Donc, voilà.
Ouais, je comprends. Et alors justement, du coup, pour Motaiba, aujourd'hui, donc là, on est en juillet 2022, c'est combien de contenu à peu près par an qui sort de chez vous?
Alors,
avec le rythme que vous avez en ce moment, quoi.
Aujourd'hui, alors si on part sur du YouTube, aujourd'hui, on a beaucoup bossé à cadence parce qu'on vise vraiment, on va dire, un côté premium. Donc, on fait vraiment les gros projets et on est peut-être à 5-6 par mois.
Okay.
Et après en corpo, à peu près pareil, ouais. Okay. Donc on n'est pas non plus submergé de travail, mais
il y a une bonne cadence, quoi.
C'est la bonne cadence parce que nos clients en général, il y a une question de fidélisation, donc c'est pas du one shot et on arrive à travailler sur des projets assez long termistes, sur minimum 6 mois, 1 an, quoi.
Ok. Et alors justement, moi la question que je me pose, c'est quand on travaille avec comme ça un même talent ou une même marque de façon répétitive, c'est quel type de deal que tu as avec ces gens-là, si c'est pas indiscret, hein, mais si tu bosses comment, c'est du one shot contrat après contrat ou c'est des engagements un peu sur la durée? Je sais que certaines maisons de disques font ça, prennent une boîte de prod pour 10 projets. Et,
Non, il n'y a pas de contrat. C'est juste une sorte de c'est vraiment un contrat de confiance en fait. Moi ça me dérange pas qu'ils travaillent avec d'autres prods, par exemple les talents, parce qu'il en faut aussi pour tout le monde. Il y a forcément des prods que j'ai pas forcément envie de faire, que je sais pas faire, donc il y a du gâteau pour tout le monde en vrai. Donc mais je sais que sur certains projets on est les plus aptes à le faire, donc voilà. Et puis après, avec les marques, si c'est plus un travail sur 6 mois, 1 an, parce que c'est du digital et il faut une stratégie. Et moi, ce que je leur conseille à chaque fois, c'est d'avoir un seul interlocuteur. Nous, on a de la chance et qu'on travaille un peu aussi comme une agence, donc une agence de prod, mais une sorte d'agence publicitaire aussi, qui fait qu'on peut vraiment vendre un accompagnement sur du moyen terme, donc 6 mois, 1 an, quoi.
Ok. Et alors... au tout début, tu me racontais tes débuts avec ton GH4, puis ton GH5. Aujourd'hui, c'est quoi le parc matériel de Motaiba? Tu fonctionnes comment?
Alors, après mon GH5, j'ai acheté un S1H.
Okay.
Avec ce S1H, j'ai fait ma première pub télé pour l'Express. Parce qu'il était vraiment... Il venait de sortir, je l'ai acheté. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Après, j'ai eu un S5. Et après, sur YouTube, j'ai vite vu les caractéristiques techniques dont avaient besoin les YouTubeurs, c'est-à-dire un autofocus très performant et tout. Du coup, je suis parti sur du Sony, parce que aussi mes gars, tous mes collaborateurs, ils étaient sur du Sony, donc AC3, AC-S3. Vraiment, pour les monteurs, je pense à eux, donc avoir le même profil d'image, la même color science, plutôt que se casser la tête à matcher et tout. Et derrière, avec le projet Equinox Tag, on avait travaillé sur de la Blackmagic Sika. Et du coup, je me suis aussi acheté une deux Blackmagic Sika Pro. Du coup, aujourd'hui, notre parc, on est sur du Sony. Moi, j'ai revendu mes Panasonic.
Ok. Pour changer de maison. Ouais.
Ouais, pour changer. Du coup, j'ai tout passé en Sony. Et en perso, je me suis acheté le GH6. Pour moi, c'était... GH4, GH5, et j'ai vu le GH6 sortir, je me dis, je vais me l'acheter, comme ça, je vais pouvoir filmer mon fils et tout. Alors, je suis repassé à l'iPhone 13 Pro Max, mais je me suis dit, bon, c'est dommage, mais du coup, ouais, GH6 en perso.
Pour le souvenir des premiers.
Exactement, ouais, c'est vraiment ça, je me suis racheté des objectifs que j'avais eu avec mon GH5, que j'avais revendu à l'époque à une petite jeune... qui sortait d'école et tout, j'ai vendu 1000 euros, je crois, avec les objectifs, donc c'était une bouchée de pain, mais ça me faisait plaisir aussi. C'est ça aussi, Motaiba, c'est un côté transmission où on va dire qu'il y a des... à chaque fois dans mes équipes, j'ai une sorte de... Il y a des mentors et des jeunes qui apprennent. Il y en a beaucoup qui sont en reconversion. Moi, par exemple, j'ai pas fait d'école ou quoi que ce soit, et pour moi, c'est important aussi de donner la chance à des personnes qui sont passionnées, qui veulent en faire leur métier, qui veulent même tester. Donc parfois sur des projets, c'est vrai qu'on a des personnes, ils vont être quoi, régisseurs, assistants cam, et derrière, je leur dis de venir, ils sont rémunérés bien sûr, et ils vont commencer à chaque fois après à toucher, à parfois à cadrer tout ça, et ils montent comme ça et ça les passionne. Et aujourd'hui, ce que j'ai besoin, c'est vraiment cette passion en fait. Si t'aimes pas ce que tu fais, pour moi, tu seras pas motivé. Si tu te lèves et t'as pas envie d'aller travailler, ça donnera rien. Et c'est très important pour moi, cet équilibre sur un tournage, sur un plateau, quand tu as toute ton équipe et que tout le monde est dans le même mood. S'il y en a un qui, moralement, n'est pas là ou est absent, ça va se sentir. Et je trouve ça contagieux, en fait. La bonne humeur est contagieuse, mais la mauvaise humeur aussi. Et aujourd'hui, c'est important d'avoir cette good vibe, en fait. Parce que je trouve qu'on fait un métier... trop cool en fait.
Ouais. Ouais, c'est clair. Bah, surtout là, vu les projets dont tu parles, ouais. C'est des trucs où il y a de la bonne créa, où tu t'amuses avec tes équipes. Je pense qu'il n'y a pas à se plaindre.
Ouais.
Justement, juste avant, tu parlais des monteurs. Tu parlais au fait que tu pensais aux monteurs par rapport à Color Science de tes caméras et avoir un matching pour éviter qu'ils se prennent trop la tête. Est-ce que justement, avec les besoins de rapidité que tu as sur tes projets, tu as une façon de tourner qui va être différente que quand tu vas faire du corpo un peu classique où tu vas avoir plusieurs semaines derrière pour faire ton montage tranquillos?
Bien sûr. Après, ouais, au niveau du workflow, on a un travail en amont avec les monteurs quand même, surtout sur du YouTube où parfois les gens ne s'en rendent pas compte, mais la vidéo du dimanche, elle a été tournée le jeudi. Sauf qu'elle a été tournée jeudi avec 8 caméras, un drone, piste son, peut-être 2h30 de rush. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est pour ça que je les aide beaucoup à mettre en place un réalisateur live avec un ATM. Il te prépare une grosse piste mélangée qui va peut-être mâcher 80% du taf. Et derrière, le mec aura juste à coller les bouts et tout.
À reprendre.
On va dire que le dérush est déjà fait. Quand on peut, on fait venir le monteur sur le tournage.
Ah, pour qu'il voit directement.
C'est vraiment, ouais, on est sur une professionnalisation un peu pour YouTube en tout cas. Parce que les délais parfois sont incroyablement courts. Donc il y a ça, et puis derrière l'étalonnage, le mixage son, les séances sont déjà bookées autre part. Ça va très vite, et parfois la vidéo à dimanche à 10h, elle est finie à 9h58.
C'est beau.
Ouais, c'est ça.
C'est les planètes alignées, quoi.
C'est ça.
Et alors du coup, quand tu parles de réalisateur live, on est d'accord que tu parles vraiment de quelqu'un qui va bosser sur un montage en direct, mais pas du tout pour faire de la diff, mais uniquement pour que ton monteur derrière puisse aller beaucoup plus vite.
Exactement. Ouais, on fait que du contenu froid. Pour l'instant, pas de live et tout, pas de Twitch et tout, mais on prend les codes que j'ai observés du live pour le mettre sur du contenu froid et bosser beaucoup plus vite au niveau du workflow, quoi. Ouais,
ouais, c'est parce qu'on aurait pu penser au début que tu vas peut-être avoir une technique de tournage en tournée montée, en réfléchissant tes plans pour que le monteur puisse y aller plus vite, mais là t'es passé à la next step, c'est que ton monteur il est déjà sur le set en direct.
Ouais, c'est ça, ouais.
Pendant le tournage,
c'est lui qui monte limite avant, puis voilà, quoi.
Ouais, mais c'est très smart.
Ouais, non, mais c'est ça. Et derrière, au niveau des axes de cam et tout ça, c'est assez travaillé. Et derrière, le monteur, à chaque fois, il sait exactement ce qu'il a. Et moi, je lui mets toujours le document de ce qui se passe et ce qu'il peut cutter et tout. Parce que, ouais, quand t'as 48 heures pour faire un montage, ouais, tu dois aller à l'essentiel, quoi. Donc.
Par curiosité, t'es déjà allé te frotter au festival, le 48 Hour Film Project, par exemple, ce genre de choses, où pour le coup, c'est le but du jeu de réaliser quelque chose en 48 heures?
Alors non, parce que c'est vrai que c'est un côté, je pense aussi, très artistique. Et tout ce qui est côté fiction et tout, ça m'intéresse pas du tout, en fait.
Ok.
Je suis vraiment plus dans le divertissement déjà. Et surtout le documentaire. Ouais, c'est vrai que le côté fiction, j'adore regarder des films. Enfin, je suis très très cinéphile, mais c'est vrai que faire de la fiction, ça ne m'intéresse pas du tout, en fait.
C'est pas le type de contenu qui t'intéresse de produire.
Et, exactement.
Ouais,
ouais.
C'est très différent.
Ouais, c'est ça, ouais. J'adore regarder, mais j'adore comprendre comment c'est fait, mais ça ne m'intéresse pas du tout de le faire.
Ouais, pour éventuellement reprendre peut-être des mouvements de caméra, des
exactement,
techniques,
ouais.
etc. Mais
ouais.
Pas pour
là,
forcément, en fait.
Ouais, vraiment pour être franc. Bah, je monte plus, je touche quasiment plus à une caméra et
sauf en famille,
sauf en
quand j'ai
famille, mais
F6.
à limite je me considère limite plus comme réalisateur mais plus comme producteur et directeur artistique quoi,
Ok.
ce qui vraiment me fait kiffer quoi. Mais c'est important pour moi aussi d'avoir eu ces casquettes-là, comprendre ces métiers-là pour derrière les mettre dans les meilleures conditions, que ce soit mes réals ou mes monteurs. Par exemple, là dernièrement, on a une grosse opportunité avec Brut, pour Brutix, pour faire deux documentaires. J'aurais pu les faire, mais je voulais tellement que tout se passe bien, et j'aime en fait aussi tout contrôler de A à Z pour que ça se passe bien, que j'aurais pas pu faire à double casquette, ce que j'ai pu faire avant, donc c'est-à-dire producteur, réalisateur. Du coup, c'est là où j'ai commencé un peu à déléguer. J'avais un réal qui était là. Je lui ai dit ta carte blanche, tu fais ce que tu veux. Mais le réflexe qu'il a eu, c'est qu'au début, il me demandait, la première journée de journée, il me demandait toute validation. J'ai fait, c'est ton projet. Mais c'est marrant parce qu'au final, ça rejoint cet esprit que j'ai voulu créer dans Motaiba d'entraide, de convivialité. Et c'est vraiment en final très gratifiant parce qu'au final, ça s'applique. Et on a passé 4 jours. Incroyable, du coup c'était pour c'est pas encore sorti mais ça va sortir normalement à la rentrée, mais c'était de Tours à Dax dans un camp militaire. On a fait de 6h à 23h, il y avait deux équipes, on devait suivre, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer, mais derrière on en est tous fiers et c'était vraiment une expérience incroyable. Et à monter, on a tourné début mai, on m'a fait connaissance du projet fin mars. Donc j'ai monté un projet en un mois d'un documentaire, un 3x30 pour une grosse plateforme en un mois. Et ils me le disent qu'en vrai, pas grand monde aurait pu le faire parce que fallait trouver le camp militaire, fallait trouver le casting, fallait trouver l'équipe.
C'est ça un petit peu peut-être l'expérience YouTube, ce que ça t'apporte, c'est cette flexibilité,
Ouais.
agilité plutôt. D'être capable de passer de tout à tout et surtout d'être capable de réagir quand t'as quelqu'un en face qui dit ah oh, en fait on va sauter sur cette voiture et on va aller à droite, à gauche et être capable de faire tout ça très rapidement quoi.
C'est ça, et je sais pour avoir parlé avec d'autres collègues que dans différents milieux, enfin différents milieux, dans différentes façons de travailler, ça peut ne pas passer, qu'on va tout réfléchir d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que c'est un avantage. Et dernièrement, en fait, on a fait une expérience avec TF1 où là.
J'allais justement t'en parler parce que j'ai cru voir sur ton Instagram que vous étiez dans la salle
Dans
de
l'atrium,
TF1
exactement. Ouais.
pour voir un projet. Du coup, tu peux nous en dire quelques mots, hein?
Donc, du coup, c'était pour StudyTracks. Donc, c'était une appli et tout, une application musicale. Et en fait, c'était pour faire une captation live. Et je sais pas, il y a eu une mésentente ou peut-être. Mais en fait, il y avait deux équipes. Il y avait TF1 qui avait son équipe pour faire la captation. Et il y avait nous. Nous, c'était pour YouTube. Et eux, c'était
Pour le broadcast, quoi.
pour le broadcast en interne. Sachant que je leur avais dit, si vous voulez, nous on vous fait une sortie, vous avez votre broadcast. Mais je sais pas, il y avait une sorte de. Pas de compétition, mais bon, il y avait deux équipes, je trouvais ça aberrant, quoi. On est arrivé, il y avait les équipes des intermittents. Ils avaient une cinquantaine d'années, nous on était là 20-25 ans. Et au final, ça s'est bien passé. Ils étaient très hautés, ils se disaient, ah, mais vous aussi, nous on travaille sur Tricaster, nous vous c'est sur Atem, incroyable. Ils ont regardé nos images, eux ils avaient les grosses caméras
De la caméra
à
broadcast.
broadcast avec leurs fils et tout. Parfois, ils dérangeaient même les gens dans le public et tout. Nous, on était en config Sony A7S 3 70-200. ouverture à D8 et regarder, il fait putain, mais sont belles vos images et tout. Alors que c'est super flat, c'est du reportage documentaire et le client n'attendait pas forcément ça. Et ce qui était gratifiant, c'est qu'à la fin, ils sont venus nous voir, ils nous ont dit franchement, les gars, bravo, parce qu'on a regardé vos images, regardez comment vous travaillez. À 3h du truc, vous étiez tous prêts, on voyait serein, on vous dit c'est bizarre. Et en fait, non, vous travaillez vite, bien, c'est concis, c'est net. Et de la part de gens qui ont 30 ans de métier, je trouve ça très valorisant et on était super fiers en fait de ce projet. On s'est mis une vraie pression. Vraiment, je leur ai dit, écoutez, il y aura peut-être une sorte de guéguerre ou quoi que ce soit, mais ça va le faire. Et puis au final...
Ouais, c'est bizarre sur un projet de se retrouver avec une autre équipe de prod pour c'est faire ça. Exactement la même chose. C'est un coup à se marcher en plus un peu sur les pieds pendant le tournage.
Exactement. Parfois, on avait la cadreuse qui était devant notre champ et tout. Mais c'est pas grave, on s'adapte. Je disais à mon réalisateur, prends l'autre axe, c'est pas grave.
Ah, encore une fois, ça, c'est l'expérience YouTube, je pense, où t'as un inox tag qui se bat dans la rue. Bah, s'il y a des passants, s'il y a des mecs qui le reconnaissent, faut que tu réagisses. Peu importe, tu vas pas dire aux gens, s'il vous plaît, décalez-vous.
Oui, on s'adapte et puis c'est pas grave. Mais c'était une belle expérience et c'était vraiment deux mondes différents qui cohabitaient, mais au final ça a très bien cohabité et le fait d'avoir leur approbation, c'était vraiment cool.
Et c'est quelque chose qui est déjà sorti, qui va sortir là?
Non, pas encore. C'est pas sorti, ça sort à la rentrée, je crois.
Ok, très bien. Bon, bah, peut-être sûrement un tout petit peu après ce podcast, du coup. Du coup, tu produis des contenus dans le corporate, l'influence, la musique, plein de choses différentes. Est-ce qu'il y a un projet qui t'a particulièrement marqué sur toute ta carrière dans la vidéo?
Ouais, c'était un projet que j'avais en tête. Comme je disais, j'aime beaucoup le documentaire et en fait, c'était un projet par rapport aux origines. Du coup, je me suis beaucoup remis en question par rapport à mes origines et par rapport aussi à mon histoire familiale où, en fait, moi, j'ai perdu mon père il y a 10 ans. Je devais partir au Vietnam pour travailler, pour développer, travailler dans la musique. Finalement, il est décédé l'été où je suis parti, je suis resté et j'ai ouvert le restaurant et tout. Mais du coup, j'ai rencontré ma femme. Et à chaque fois, c'est ça, c'est toujours se dire qu'un événement triste ou tragique derrière, il va se passer quelque chose de bien en fait. Comme le vol du GH4 ou voilà quoi. Et en fait, j'avais toujours eu cette idée parce que on avait participé à un documentaire avec Canal+, avec ma mère, avec Fred Chesneau, qui est le globe cooker, qui va en général dans des pays goûter la gastronomie du pays. Et il avait sorti un nouveau projet qui était le pari du globe cooker, où il allait dans différentes communautés pour passer un moment dans Paris, en Île-de-France. Et en fait, pour le Vietnam, il nous avait choisis.
Okay.
Et en fait, il passait un nouvel an dans notre famille. Du coup, il a passé toute l'après-midi avec ma mère à cuisiner. Et après,
avec,
il a
une équipe de télé.
Oui, c'est ça, ouais.
Dans la maison.
Et après, il a dîné avec. Et en fait, à la retransmission du projet, il commençait à poser des questions à ma mère. Et il a posé des questions quand même assez intimes, comment elle a rencontré mon père et tout. Et c'est des questions, en fait, que nous, enfants, on n'avait jamais posées. Peut-être par le côté pudique et tout, mais j'ai vu une telle aisance dans la manière dont ma mère a répondu que ça m'a fait poser des questions. Et du coup, je me suis renseigné par rapport à d'autres amis d'origine. Et elle me disait, c'est pareil, que leurs parents n'avaient pas forcément envie de parler à leur enfant directement, quoi que ce soit. Et du coup, j'ai un peu travaillé le truc et je me suis dit, je vais interviewer un enfant, une maman et son fils en les posant devant une caméra. Et en fait, c'est fou comme quoi une personne autre, avec une caméra, et les langues se délient en fait. Et du coup, j'ai filmé une petite capsule de 20 minutes entre sa maman, donc vietnamienne, et son fils, qui lui demandait « Écoute maman, comment t'en es arrivé là? C'est quoi ton histoire ?» et tout, qu'il ne connaissait pas.
Donc c'est le fils qui posait les questions à la mère. Toi, tu n'intervenais pas, t'étais
pas du
vraiment
tout. Exactement.
Un peu à la striptease où tu poses la caméra et... t'es témoin de la scène, quoi.
C'est ça, ouais. Et du coup, c'était en vietnamien. Du coup, j'ai traduit en français et tout ça. C'était à faire à Paris et tout. Et je l'ai posté comme ça sur mon Insta. Je disais que c'était un projet perso et tout. Et j'ai eu des grosses retombées. Genre énormément de messages de gens qui étaient touchés. Je me reconnais. Ça me parle. Je vais faire la même chose avec mes parents. Incroyable ça, et j'ai été débordé juste avant la naissance de mon fils de messages et je trouvais ça incroyable. Et derrière, je me suis dit, je vais le traduire en anglais parce que j'ai la moitié de ma famille qui est aux États-Unis et Et je l'ai mis dans des groupes de Vietnamiens sur Facebook et tout. La vidéo a fait plus d'un million de vues et des commentaires de tous les pays, enfin des, en anglais, de, d'origine vietnamienne, comme quoi on se reconnaît, que ça me donne envie de le faire et tout. Et c'est là où ça, ça m'a apporté de la valeur et aussi ça, ça a donné de... Ça a prouvé, ça a validé aussi ma volonté de me rapprocher de mes origines et essayer aussi de donner aussi à mon échelle, à ma communauté en fait, asiatique. Et pour moi, c'est un des projets dont je suis le plus fier, alors qu'en vrai, c'était juste un GH5 avec deux micro-rottes, quoi. Mais c'était pas si élaboré que ça, mais en fait, l'idée était bien, comme au point que j'ai Netflix qui sont intéressés pour travailler le truc, et il y a eu la deuxième vague, et ça s'est pas fait, mais c'était retravaillé pour différentes origines, donc... Moi, j'étais parti, du coup, j'ai élaboré, par exemple, les Turcs en Allemagne, les Japonais au Brésil, la communauté pakistanaise en Angleterre. En fait, un truc un peu plus worldwide, les Cubains aux États-Unis et raconter, en fait, via des familles, toute cette diaspora et toute cette immigration, quoi.
C'est un projet que, du coup, tu vas quand même essayer de pousser maintenant ou j'imagine que le temps te manque un petit peu.
J'ai manqué de temps, carrément. J'avais tourné deux autres épisodes que j'ai jamais sortis. J'ai eu le temps de le monter. Un, c'était une famille indienne. Et le deuxième, c'était une famille chinoise. Et j'ai jamais eu le temps de les monter. Il faudrait que je m'y mette à un moment. Mais là, je me suis libéré de beaucoup de choses. Donc, c'est un de mes goals de 2022 de les monter et de pourquoi pas m'en servir. Aujourd'hui, on commence à avoir des accès à Netflix ou Amazon. Peut-être c'est le moment de pitcher quelque chose et voir ce qu'on peut en faire, quoi. Mais le but, c'est pas d'en faire un truc français-français, même si en français, il y a des communautés ultra différentes, mais plus essayer de pousser un peu plus worldwide, quoi.
Ouais, là, l'intérêt, et ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, grâce à Internet, on touche, et puis maintenant aux plateformes, on peut facilement toucher beaucoup, beaucoup de gens.
Exactement, ouais.
Et que du coup, quand on crée un contenu, il faut pas le penser uniquement pour les gens du Sud, de Paris, mais plutôt du monde entier, quoi.
Exactement, ouais, c'est ça, ouais.
En tout cas, je trouve très impressionnant de voir la route que tu as parcourue en 2 ans. De la création de la boîte tout seul avec ton GH4, enfin avec ton GH5 d'ailleurs, ouais, au début, et aujourd'hui avec ces projets-là. Donc franchement, pour ça, félicitations.
Merci.
Est-ce qu'il y a, ça va être un peu pour clôturer cet épisode, est-ce qu'il y a une référence, un contenu YouTube, un podcast, un livre, quelque chose qui t'a aidé ou que t'aimerais en tout cas recommander pour des gens qui aimeraient se lancer?
Moi, je regarde un mec sur Insta, un russe qui s'appelle Volny. Il fait des transitions incroyables, il a un storytelling dans ses vidéos que je trouve fou.
C'est Volny,
V-O-L-N-Y, ouais, okay. Il s'appelle Pro, lui je regarde beaucoup, après en livre, je lis pas du tout. Et sinon, je regarde pas forcément quand je regarde du contenu YouTube. Je regarde plus l'idée que la réale, je suis pas forcément très regardant sur la réale. Parce que c'est un peu comme nous, je me dis, on est dans la vitesse, dans l'agilité. Pour moi, le plus important, c'est l'idée qui ressort et le contenu. Et aujourd'hui, les gens s'ennuient très vite. Donc, c'est cette capacité à entertainer assez rapidement.
Ouais, il me semble qu'on dit que sur Internet, il y a une sorte de règle où il faut que dans les 3 premières secondes, il faut que tu aies capté l'attention de la personne qui regarde. Sinon, c'est mort, il va couper.
Là, surtout les algos sur YouTube et tout... Le watch time est super important, qui fait que dans la première heure sur YouTube, ta vidéo, on sait déjà si ça va être un flop ou ça va être un truc qui va marcher. On va dire qu'il faut aller vraiment dans l'efficacité. Je regarde beaucoup ce que font les Américains et les Japonais. Okay. Là, c'est vraiment plus pour la création d'idées. Mais je n'aurais pas forcément de référence. Je passe énormément de temps sur YouTube. Ma femme me disait, avant que ça soit mon métier, elle ne comprenait pas pourquoi j'étais beaucoup sur YouTube. Et maintenant, elle comprend pourquoi. En vrai, personne n'aurait pu prévoir que ça allait terminer comme ça. Mais c'est une passion qui s'est transformée en mon métier. Et aujourd'hui, ouais, on est vraiment fiers de faire partie de ces boîtes qui sont les références dans le YouTube game, quoi.
Ouais, mais il y a de quoi, hein. Franchement, il y a de quoi. Donc félicitations pour
merci.
Ça. Et merci beaucoup en tout cas de nous avoir révélé tout ça. J'espère que ça aura inspiré plus d'une personne. On peut retrouver ta boîte et les contenus que vous créez sur motaiba.co.
Ouais.
Ça.co. Et sur ton Insta perso, Stéphane Tran.
C'est ça, ouais. Voilà. Au début, je voulais pas créer d'Insta pour la boîte. Je me suis dit que. Au début, c'était ma boîte. Et j'incarnais ma boîte. Et aujourd'hui, ce que je suis vraiment fier et content que c'est plus Motaiba qui a pris le dessus que Stéphane. Et maintenant, Stéphane fait partie de Motaiba. Alors qu'avant, j'étais Motaiba. Et aujourd'hui, c'est toutes ces personnes-là qui sont Motaiba un peu. L'esprit, et on va créer un Insta
dédié
boîte. Avec nos prods et tout. Là, je fais un peu mélange avec ma vie de famille, plus mes projets perso, mais on va un peu dissocier. Et puis, s'il y en a qui veulent travailler, découvrir et tout, nous, on regarde les CV, voir qui peut matcher et tout.
Et ça recrute à fond en ce moment chez Motaiba.
À la rentrée, on aura besoin de force, que ce soit tout ce qui est montage ou cadreur. Même réel et tout. Ouais, on a
une adresse mail à contacter.
C'est sur le site, je crois. C'est plutôt maintenant, c'est Camille qui va s'en charger. C'est camille.motaiba.co.
Allez, voilà, Camille va recevoir plein de CV, j'espère.
C'est ça, ouais. Et ouais, 2022-2023, on a déjà. Je vais pas dire ce qu'on a signé, mais il y a des très belles choses et ça va exploser.
Il y a besoin de monde.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est vraiment, ouais.
Bon, bah, super. Merci beaucoup, Stéphane.
De rien, c'était un plaisir. Ouais.
À très bientôt.
À très vite, ciao. Merci.
Merci d'être de plus en plus nombreux chaque semaine à l'écoute d'Au Générique. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis et une note sur Apple Podcast ou Spotify. Cela nous aide énormément. Au Générique revient dans 2 semaines et vous donne rendez-vous sur lightshare.com. À très vite.